Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Massimo.
Les rideaux se sont levés hier à Inongo, Maïndombe, sur les travaux de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa. Pendant presque une semaine, les participants se penchent sur l'évangélisation dans cette partie de l'église. À l'ouverture, le cardinal Ambongo est revenu sur les mots qui rongent le pays. Il s'est dit inquiet après les propos du chef de l'État concernant la Constitution. Les journalistes appelés à contribuer dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes pour arriver à changer les choses, c'est ce qui ressort d'un atelier consacré à ce sujet. Travaux clôturés hier à Kinshasa avec l'apport de l'ambassade d'Espagne. Comme invité, le responsable du département des langues et civilisations anglaises à l'université pédagogique de Kananga, Sylvain Chitoko, salue l'introduction d'une épreuve orale d'anglais à la partie hors session de l'examen d'État, mais juge prématuré son application dès cette année scolaire. Madame, Monsieur, bonjour. C'est fait. L'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa s'est ouverte à Inongo. La cérémonie a eu lieu hier jeudi et c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui a lui-même procédé à son lancement dans le chef-lieu de la province du Maïndombe. Une occasion pour le prélat catholique d'évoquer les maux qui rongent le pays, comme la guerre dans sa partie est, à Kwamout, les saccages des églises, d'autres tueries ainsi que la pauvreté de la population. En ce qui concerne précisément les travaux de 6 à 6 qui se clôturent mardi prochain le 12 mai, notez qu'ils vont se pencher notamment sur l'œuvre de l'évangélisation dans la province ecclésiastique de Kinshasa, cela à travers des secteurs comme la formation, la vie consacrée et autres. Écoutez plutôt le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Ces propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamou, correspondant de la radio communautaire de Bandundouville.
Nous aurions dû nous retrouver déjà ici l'année dernière, mais certains événements malheureux de la vie nationale nous avaient contraints de modifier non seulement la période, mais aussi les lieux de notre rencontre. Au lieu de Inongo, la réunion s'était tenue à Kinshasa. Nous voici aujourd'hui à Inongo, où le peuple de Dieu et son pasteur nous attendaient avec joie et ferveur depuis plusieurs mois. Alors que nous nous réunissons ici à Inongo, notre pays s'enlise. Les tensions sont de plus en plus vives. Les situations d'insécurité et de violence se multiplient au quotidien, n'épargnant même pas nos églises et nos lieux de culte. Des tueries et des massacres de paisibles citoyens ne s'arrêtent pas, sans oublier les conflits armés à l'est du pays, avec l'occupation d'une grande partie de notre territoire national.
Le cardinal s'est aussi prononcé au sujet de la conférence de presse de mercredi tenue par le chef de l'État. Au sujet du débat sur le changement ou la révision de la Constitution, le prélat catholique a déclaré qu'une telle situation interroge et inquiète quant à l'avenir de la nation. Le cardinal Ambongo souligne qu'il y a pourtant un besoin urgent de paix durable et de cohésion nationale pour redonner l'espérance au peuple congolais. Un exemple, la guerre dans l'est de la RDC, cette fois en Ituri. À Mambasa, précisément, environ 15 personnes ont été tuées hier jeudi lors d'une attaque attribuée aux rebelles des ADF à Biakato, un centre de négoce situé dans le territoire de Mambasa. Ces assaillants ont mené leur incursion en pleine journée, provoquant les déplacements des populations. L'administrateur du territoire affirme que les forces armées sont à la poursuite des assaillants. Martial Kizabiamungu.
C'est une attaque surprise qui a secoué jeudi la cité de Biakato alors que les habitants vaquaient à leurs activités quotidiennes. Selon des sources locales, un groupe de rebelles de ADF venus du nord de Biakato a fait irruption dans les centres commerciaux sous une faible pluie tirant plusieurs coups d'effet dans différentes directions. La panique s'est rapidement emparée de la population. Dans la confusion, une quinzaine de civils auraient été tués par balles, rapportent les mêmes sources. De nombreux habitants ont également fui, notamment à Makoumo. La nouvelle société civile congolaise déplore que ces rebelles aient opéré en toute quiétude dans cette agglomération. De son côté, l'administrateur assistant du territoire de Mambasa avance un bilan provisoire des 12 morts. Le colonel Maxime Pombois affirme que l'armée est intervenue rapidement afin de limiter les dégâts. Cette autorité territoriale accuse toutefois certains habitants de collaborer avec les ADF, ce qui, selon lui, complique les opérations des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci Martial. Des réactions fusent après l'attaque d'un convoi humanitaire dans le territoire de Mwenga le 3 mai dernier. Nous sommes là au sud de Kivu. Une ONG dénommée Eminent Mwanda Plus condamne ces actes qu'elle attribue à un groupe d'éléments Wazalendo. Des actes intervenus au niveau de Kalimoto, à quelques kilomètres de Kalambi, dans la chefferie de Lundi. Le coordinateur de l'ASBL rappelle que le convoi humanitaire est inviolable car il est protégé par le droit international humanitaire. Eminent Mwanda formule quelques recommandations au micro de Jean Kassami.
L'initiative Eminent Mwanda Plus exige la cessation immédiate de toute attaque contre les acteurs humanitaires et leurs installations. Ouverture d'enquêtes indépendantes pour identifier et traduire en justice les auteurs de ces actes. La garantie d'un accès humanitaire sûr et sans entrave pour toutes les organisations œuvrant dans la province. L'implantation urgente des autorités nationales et des partenaires internationaux pour protéger les civils et les personnels humanitaires. Il est impératif de protéger ceux qui risquent leur vie pour sauver des vies. Le silence et l'inaction ne sont plus des options. Nous restons saisis.
Les dégâts humains et matériels de ces actes ne sont pas encore déterminés. L'ONG concernée n'a pas préféré s'exprimer à ce sujet. Les journalistes appelés à contribuer à lutter contre les violences à l'égard des femmes en vue d'obtenir un profond changement du comportement. C'est ce qui ressort d'un atelier consacré justement au rôle des professionnels des médias dans la lutte contre ce phénomène. Atelier organisé du mercredi jusqu'à hier jeudi à Kinshasa. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment comment représenter les femmes dans les médias, comment parler de la violence sexuelle, quelle méthode utiliser pour traiter toutes ces questions. Pour Madame l'ambassadeur d'Espagne en RDC, les journalistes qui jouent un rôle majeur doivent s'impliquer davantage et opter pour un changement dans leur manière de communiquer. Les propos de Maria del Carmen Diaz Oreas sont recueillis par Jean Gandou.
Ici en RDC, j'en parlais de la violence. De la violence à l'Est, on commence à entendre plus et voilà, on parle de la violence sexuelle. On parle de comment on utilise le corps de la femme en tant que champ de bataille, comme arme de guerre, pour détruire l'ennemi, pour déstructurer la société. Mais au fur et à mesure que je rencontrais des femmes activistes sur les droits des femmes, ils me parlaient de la violence qu'elles souffraient, pas au Nord Kivu, pas au Sud Kivu, mais ici à Kinshasa. Et moi, je n'accepte pas, c'est comme ça. Ça ne doit pas toujours être comme ça. Il faut commencer à changer. Vous savez, une dame première ministre, ça commence à changer. Mais il y a quelque chose qui empêche le changement complet. C'est pour ça qu'il y a cette violence à l'égard des femmes. Et c'est ça que la contribution des médias a été très importante. Parce que je voudrais vous motiver, à vous les journalistes, à accepter le défi de dire comment je peux contribuer à promouvoir ces changements, parce que c'est une question de justice.
Sachez que le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication, Christian Bossembe, y ont aussi marqué leur présence. Retour dans l'ex-province de Bandundu avec ce cri de détresse de la société civile locale. Elle alerte sur les conditions difficiles que vivent les détenus de la prison centrale. Cette situation devient de plus en plus préoccupante, notamment en raison du manque d'un équipement essentiel pour leur alimentation. Le manque de moulins, par exemple, les empêche de transformer le manioc pour en faire la pâte communément appelée foufou, aliment de base dans la contrée. Ces informations recueillies par Jean-Claude Tangamou sont rendues par Joël Ouichi.
À la prison centrale de Bandundu, plus de 350 détenus font face à une situation particulièrement pénible. Depuis plus de 3 mois, ils sont privés des moulins pour transformer les maniocs, leur aliment de base. Chaque jour, ces prisonniers sont contraints de piler les maniocs à l'aide des mortiers. Une tâche éprouvante qui vient aggraver des conditions de détention déjà précaires. Cette situation est jugée incompréhensible par plusieurs acteurs locaux, d'autant plus que la ville de Bandundu est régulièrement alimentée en électricité. Face à cette réalité, la société civile lance un appel urgent aux autorités provinciales et nationales. Elle demande l'installation rapide d'un moulin dans cette prison afin d'améliorer les conditions de vie des détenus.
Le projet de pont en route rail entre Kinshasa et Brazzaville, bientôt une réalité. Il vient de franchir une étape décisive. Les ministres des Finances de la République démocratique du Congo et de la République du Congo ont signé hier jeudi à Kinshasa un protocole d'accord relatif à la faisabilité de ce programme. La cérémonie de signature a été présidée par le vice-premier ministre, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, assure la fonction de point focal du projet pour la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Blaise Ndongala.
Cet accord bilatéral signé à Kinshasa entre Doudou Fouamba, ministre des Finances de la RDC, et son homologue du Congo Brazzaville fixe les régimes fiscal, douanier ainsi que les recettes fiscales et non fiscales applicables aux concessions et aux sous-traitants impliqués dans les projets du pont route rail. Cet ouvrage sera bientôt construit à Maluku sur les fleuves Congo entre Kinshasa et Brazzaville, considérés comme les deux capitales les plus rapprochées du monde. Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre du Congo Brazzaville en charge de la coopération a salué l'aboutissement de ces processus.
La pêche et le transport entre les deux rives expriment en réalité la puissance, la stabilité et le trésor de nos deux Congo.
De son côté, le vice-premier ministre et ministre des Transports de la RDC est revenu sur la portée stratégique de ces protocoles d'accord pour l'intégration régionale et le développement économique. Jean-Pierre Bemba Gombo.
Cela concrétise le projet de pont route rail en un véritable pont de développement, augmentant la capacité d'échange, facilitant la mobilité des personnes et des biens.
La suite du processus prévoit notamment la création d'une commission intergouvernementale chargée de coordonner les activités du projet pont route rail ainsi que la publication de la demande des propositions.
Dans ce journal aussi, ce mécontentement des agents de l'entreprise Mining Excavation Congo, Mexico SAA, il s'agit d'une sous-traitance de la société MMG Kinsevere, située à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi. Ces agents dénoncent leur licenciement qu'ils qualifient d'abusif par cette société de la province du Haut-Katanga. Dans une déclaration hier jeudi à Radio Kapi, ils affirment que leur licenciement est intervenu le 4 mai dernier, après avoir observé un mouvement de grève pour revendiquer l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Le point avec Paula Munanga.
Les agents de l'entreprise Mexico ont observé un mouvement de grève le 23 avril dernier. Ils ont dénoncé la modicité de leur salaire et exigé à l'employeur la mise en application du SMIG. L'un des agents s'exprime.
Je viens pour dénoncer la non-application du SMIG et les licenciements abusifs chez la société Mexico. Nous sommes les opérateurs des engins lourds au sein de la société Mexico. Nous souhaitons apporter à la connaissance de l'opinion publique une situation très préoccupante relative au non-respect de la législation sociale en vigueur.
Radio Okapi a contacté les responsables de l'entreprise Mexico, mais ils n'ont pas voulu réagir à ce sujet. Signalons cependant que dans la notification de licenciement avec préavis adressé aux agents, les responsables de l'entreprise les accusent d'avoir incité leurs collègues au mouvement et révolte en violation de la procédure légale établie. En outre, d'avoir menacé de faire perdre à l'employeur les contrats de sous-traitance qui les lient à la société MMG. Ce qui peut être assimilé à du sabotage, précise la notification. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Coupure intempestive d'électricité à Kinshasa, à la base d'un autre phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la multiplication des cabines de recharge dans plusieurs quartiers de la capitale. Téléphones, lampes et batteries sont régulièrement rechargées. Cela offre une solution à une population confrontée aux difficultés d'accès au courant électrique, mais ce service devenu indispensable représente aussi un coût supplémentaire pour de nombreux ménages déjà fragilisés. C'est un reportage de Magloire Landou.
Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, les cabines de recharge sont devenues incontournables. Téléphone en main, les habitants s'y pressent pour alimenter leur appareil, faute d'électricité à domicile.
Je suis venu ici déposer mon téléphone, c'est parce qu'on n'a pas les courants. Il faut que je paye encore de l'argent pour que je trouve l'énergie. C'était à 500, on a haussé 1000 fois, et puis ça ne doit même pas traîner. Dans quelques minutes avant qu'on s'épuise, je viendrai encore déposer. Nous souffrons vraiment.
Ici, nous n'avons pas du courant. C'est pour cela que je viens charger. S'il n'y avait pas cette cabine, comment ferions-nous pour recharger? Nous devons venir avec 1000 francs chaque jour. Que les autorités pensent à nous et rétablissent l'électricité. Pour les exploitants, ces cabines représentent une véritable opportunité économique. Certains se sont lancés dans cette activité après avoir constaté une demande de plus en plus forte.
J'ai ouvert cette cabine de recharge pour aider beaucoup de gens parce qu'ici le courant pose problème. Cela m'aide aussi car c'est une source de revenus. Les difficultés sont nombreuses et en cas de manque de carburant, j'en souffre car j'utilise rarement du courant.
Car derrière cette apparente rentabilité, Les défis sont nombreux. Achats réguliers de carburant, coûts d'entretien et parfois une clientèle insuffisante pour assurer la rentabilité de l'activité. Malgré ces contraintes, ce cabine reste une solution de proximité essentielle dans un contexte marqué par une instabilité persistante de l'approvisionnement électrique.
Actualité internationale.
Le ministre kényan des Affaires étrangères a déclaré hier que 19 citoyens avaient trouvé la mort en combattant sur le front ukrainien et que 32 autres étaient portés disparus, alors que les critiques s'intensifient suite à des informations faisant état d'enrôlement forcé des Kényans dans l'armée russe. S'exprimant lors d'une séance de la commission sénatoriale, Moussalia Moudavadi a déclaré que le nombre des Kényans enrôlés dans l'armée russe était passé de 250 à 291.
L'invité.
Il s'agit du chef de travaux et responsable du département des langues et civilisations anglaises à l'université pédagogique de Kananga. Sylvain Chitoko salue l'introduction d'une épreuve orale d'anglais à la partie hors session de l'examen d'État, mais juge prématuré son application dès cette année scolaire. Sylvain Chitoko s'entretient avec André Katindengalamoulumé.
C'était Sylvain Chitoko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le gouvernement congolais a pris la décision pour qu'il y ait l'oral de l'anglais à l'examen d'État en commençant par cette année scolaire 2025-2026. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du gouvernement congolais?
J'ai accueilli cette décision avec beaucoup de joie. L'anglais, depuis 2014, selon la loi cadre, va être étudié comme une deuxième langue officielle. Parce que nous vivons dans la période de mondialisation, le monde est devenu un village planétaire et beaucoup de gens cherchent à échanger des idées et à changer des expériences. Mais l'unique langue qui peut faciliter cette tâche, c'est l'anglais. C'est la raison pour laquelle j'étais très content parce que maintenant nos élèves du secondaire seront motivés pour apprendre cette langue et la maîtriser comme il faut.
Quelle est l'importance de l'anglais pour le Congolais?
L'anglais est très important dans ce pays parce que, comme je l'ai dit, c'est une langue de communication. C'est la première chose, une langue de communication. Ceux qui ont l'habitude de voyager, dès qu'ils entrent à bord d'un avion, il n'y a que l'anglais qui prime ceux qui vont à l'étranger. Donc c'est une langue de communication, c'est une langue de commerce et c'est une langue de recherche. Tout chercheur, s'il veut être lu, et à travers le monde, il doit publier soit son livre, soit son article en anglais. Donc c'est une langue très importante que nous ne pouvons pas négliger. Et surtout que nous tendons vers les pays anglophones. Vous voyez qu'il y a des Américains qui viendront ici et ils pourront toujours avoir besoin des gens qui communiquent en anglais. Donc ce n'est pas une langue que nous devons négliger.
Qu'est-ce que cette décision doit apporter dans l'apprentissage de l'anglais ici en République démocratique du Congo?
Je pense que cette décision va stimuler nos élèves qui étaient négligents. Ils seront stimulés à apprendre la langue parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont arriver en sixième, ils doivent présenter l'examen oral d'anglais. Tout comme ils avaient l'habitude de présenter l'examen écrit. Maintenant, on va voir la capacité de chaque élève s'il est en mesure de se défendre oralement comme ils le font en français.
Pensez-vous que les élèves congolais, pour la majorité, seront capables de passer facilement cet examen oral d'anglais?
Dans un premier temps, ça sera difficile parce que c'est une nouvelle habitude. Mais je pense avec le temps, ils vont s'habituer. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est faire des recyclages auprès des enseignants qui dispensent ces cours au secondaire pour qu'ils adoptent de nouvelles méthodes, qu'ils adoptent de nouvelles stratégies pouvant permettre aux apprenants de bien maîtriser l'anglais oral et de bien maîtriser aussi l'anglais écrit. Parce qu'on ne va pas seulement s'imiter à l'anglais oral. Donc les enseignants nous demanderont aux inspecteurs de faire des recyclages, de faire beaucoup de réunions avec les enseignants d'anglais pour qu'ils puissent changer leur manière de dispenser les cours. Et nous allons aussi demander aux élèves qui étaient négligents de se donner à suivre correctement ces cours comme ils suivent aussi d'autres cours.
Parce que vous avez parlé de méthodes, quelles sont les méthodes qui sont appropriées pour permettre aux élèves d'atteindre un niveau de parler couramment l'anglais?
Pour le moment, il doit y avoir la méthode communicative. Donc les enseignants doivent apprendre aux étudiants comment ils doivent interagir, l'interaction. Ils doivent apprendre ce que nous disons en anglais, ce que nous avons toujours l'habitude d'utiliser ici, cooperative language learning. Donc, on doit former ces élèves-là à travailler en groupe, à échanger des idées en groupe avec la méthode communicative. Et les cooperative language learning, je pense et je suis sûr que nos élèves pourront s'en sortir. ils n'auront pas de difficultés.
Quel message vous lancez aux autorités nationales qui ont d'ailleurs pris cette décision?
Ce que je demande aux autorités nationales qui ont pris cette décision est d'équiper les écoles, parce que dans beaucoup d'écoles, il n'y a même pas de manuel scolaire. Donc, équiper nos écoles, si possible, avoir des laboratoires dans nos différentes écoles pour que les élèves puissent apprendre et que les élèves puissent s'investir dans l'apprentissage de cette langue.
Monsieur Sylvain Chitoko, chef du département des lettres et civilisations anglaises à l'Université pédagogique de Kananga, nous vous disons merci.
Merci également à vous de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Lievin Bouinga l'a préparé et Jean-Claude Ciala nous a aidé à vous le faire parvenir. Passez une agréable journée.